Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. Se rendre chez le médecin quand tout va apparemment bien n'est pas une démarche évidente pour beaucoup de gens. Pourtant, c'est un atout de faire régulièrement le point sur son état physique. C'est ce qu'on appelle un bilan de santé ou check-up médical. Dans la pratique, de quoi s'agit-il? Pourquoi faire un bilan de santé? Quels en sont les bénéfices?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne, de décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Notre invité Sékou Cheikh Bomba répondra à ces questions et à celles que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Sékou Cheikh Bomba est le PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Après cette discussion, vous suivrez dans la deuxième section de notre émission Carnet de santé avec Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec Sékou Cheikh Bomba. Bonjour Cheikh.
Bonjour.
Merci d'être notre invité pour cette émission qui est consacrée au check-up médical ou au bilan de santé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un bilan médical?
Un bilan de santé est un acte préventif désignant l'ensemble des examens médicaux subis par un individu.
À quoi sert-il?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne, de décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Il y a aussi la possibilité, au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Donc les bénéfices d'un bilan de santé, c'est au niveau de la prévention d'une maladie?
Je dirais oui, ça c'est la plus importante situation qu'on peut tirer du bilan de santé, c'est la prévention, mais il y a la constatation aussi. Parce que quelqu'un peut être bien portant et toujours souriant, mais il traîne une maladie. Il n'a pas encore été complètement déclenché, mais il a déjà la maladie. Et à ce niveau-là, avec un bilan de santé, on peut avoir des informations. Le corps humain change. Chaque seconde que nous prenons, notre corps s'adapte à notre environnement, à tout ce qui nous entoure, notre manière de nous nourrir, l'alimentation et tout impact sur le corps humain.
À cause de tout ça, le corps, il a besoin d'un check-up médical ou d'un bilan de santé?
On pourra considérer ça comme une machine. S'il n'y a pas l'entretien de cette machine, on ne pourra pas en fait savoir qu'est-ce qui se passe. Le bilan de santé est un diagnostic en réalité du corps humain qui a assez d'avantages. Le corps subit des évolutions, transformations et un dispositif d'examen biologique suivi d'un contrôle de poids, de tension, de vue, audition, de réflexe et pourrait se rapprocher de l'idée d'une révision. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'importance dans ce bilan de santé.
Quels sont les examens qui sont recommandés ou pratiqués pendant le bilan de santé?
Il y a l'examen biologique, normalement une prise de sang, l'analyse de l'urine. Il y a des tests visuels et auditifs, l'électrocardiogramme que les Américains appellent la plupart du temps et EKG, un examen bucco-dentaire.
Pendant un bilan de santé, y a-t-il des examens spécifiques suivant certaines catégories de personnes?
Il y a la possibilité pour les patients qui sont déjà en âge, plus de 65 ans, 70 ans, la possibilité d'identification de l'Alzheimer et différentes maladies. Pour des fumeurs, il y a la radiographie pulmonaire. Pour les femmes, il y a la gynécologie, les plusieurs examens. En fait.
Nous avons un auditeur, Gakdos Kebabe, depuis N'Djamena au Tchad. Il demande quel est l'âge recommandé pour commencer à faire son bilan de santé.
Je dirais un jour.
Donc, dès qu'on est quoi?
Dès qu'on est déjà, ça c'est déjà fait, mais après une semaine, tout individu peut chercher en fait à avoir un bilan de santé. Et c'est très très important. Il n'y a pas d'âge, c'est vraiment recommandé. Et je dirais une fréquence annuelle serait la meilleure approche. Et certaines personnes que je connais font à une fréquence biannuelle, c'est-à-dire deux fois par an.
Donc cela signifie que le bilan de santé s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux vieux, aux femmes, aux hommes, aux citadins, aux villageois, aux professionnels, à tout le monde?
Tout tout le monde, toute la population entière.
Où est-ce qu'on peut faire ce bilan de santé? Est-ce qu'on peut se rendre chez l'infirmier chez qui on va toutefois quand on se sent mal, ou il faut aller à l'hôpital dans un grand centre?
Normalement, ce qui est recommandé, c'est de se retrouver dans un centre hospitalier universitaire, pour employer le lexique francophone. Dans un pays francophone, je pense que nous avons des centres hospitaliers universitaires. Nous avons des centres hospitaliers régionaux. N'importe en fait quel centre, je dirais, de santé communautaire ou urbain, clinique privée, qui a en son sein un personnel qui puisse pratiquer la médecine générale, c'est possible. Dans tout endroit où se trouve un médecin général ou un infirmier, il est possible de faire un bilan de santé annuel.
Ça doit coûter cher.
Je l'affirme, ce n'est pas gratuit. En Afrique, surtout que dans certains pays, même avec l'assurance, il faut encore payer pour le bilan annuel de santé. Mais nous avons pensé à cette solution. Voilà pourquoi, au sein des SCB System, nous avons créé l'application Apollo.
L'application Apollo qui permet de faire quoi?
L'application Apollo, en fait, te permet de vulgariser le bilan de santé. Avec Apollo, par exemple, nous permettrons de réduire tout le coût du bilan de santé en employant une économie d'échelle. C'est-à-dire, nous pouvons aller vers une clinique ou un médecin et lui dire, nous allons vous apporter like, 1 million de patients par an sur qui vous devez performer le bilan de santé annuel. Like, provide the service.
Pour fournir les services.
Yeah, merci. Yeah, fournir les services. Donc, avec cette approche, si le bilan de santé coûtait normalement 10 000 francs, parce que le prix varie en 10 000 et 100 000 dans certains pays francophones. Donc, si normalement il devait charger 10 000 francs pour 20 patients par an, parce que c'est vraiment pas une pratique répandue en Afrique, on lui dira nous apporterons 1 million de personnes, donc il serait préférable que tu fasses ça juste 1 000 francs. Ce gars peut être OK avec parce qu'il verra cette entrée de capital.
Vous faites tout ça pour vulgariser le bilan de santé et faire la promotion de la santé en Afrique?
Nous avons une approche pour vulgariser le bilan de santé en Afrique. C'est ce que nous travaillons.
Vous êtes le directeur de CBS Service. Vous avez créé une application pour faire la promotion de la santé en Afrique.
Yes.
C'est un sujet tellement important que nous allons y revenir pour une autre édition de Votre Santé, Votre Avenir. Pour revenir au bilan de santé, est-ce que cette notion est assez familière en Afrique? Est-ce que les Africains font facilement le bilan de santé, même ceux qui ont de l'argent?
Je dirais non. Je dirais non, parce qu'en 2018, nous avons fait une recherche qui a prouvé que moins de 2% de la population en Afrique de l'Ouest pratiquait le bilan de santé. C'était vraiment pas courant. Et au ressort, en fait, de notre recherche, nous avons constaté que la majorité des personnes, même des médecins et tout, ils ont pris pour l'habitude de se rendre à l'hôpital lorsque c'est déjà grave. On ne pratique pas la prévention, en fait, en Afrique. Et ça, c'est, je pense que la base de tous nos maux.
Alors que quand c'est déjà grave, parfois ça peut conduire à trop tard.
Yes.
En quelle année vous avez fait cette étude?
En 2018.
Et seulement en Afrique de l'Ouest?
Yes, en Afrique de l'Ouest.
Est-ce que vous avez une idée du nombre ou bien du taux des personnes qui font régulièrement un bilan de santé dans toute l'Afrique?
Nous n'avons pas spread out. Conduit, n'est-ce pas? Je trouvais le mot en français. Nous n'avons pas, en fait, fait...
Conduit une étude?
Conduit, merci. Conduit l'étude sur l'entièreté de l'Afrique, vu que nous avions comme communauté de base l'Afrique de l'Ouest et nous avions cherché à pénétrer avec notre nouveau service. Donc, le taux annuel en Afrique, je dirais toujours que c'est vraiment bas. Parce que pour l'Africain lambda, le bilan de santé n'est pas dans sa culture. Donc, je peux prédire que ça sera moins de 10%.
Est-ce que même les Africains qui ont de l'argent ont l'habitude de faire des bilans de santé?
C'est pire en fait, parce que les Africains qui ont le moyen de faire des bilans de santé n'en font pas. Ils se disent qu'ils sont toujours bien portants et lorsqu'ils auront une maladie, ils pourront immédiatement se soigner. Ils se disent oh, nous n'avons pas de temps, nous sommes vraiment pris. Nous ne pourrons pas perdre une heure ou une journée de notre temps pour aller juste check notre statut au niveau de notre santé. Ça, c'est vraiment un problème. Peu de personnes en fait le font. Même certaines personnes qui ont vécu à l'étranger, la diaspora qui se retrouve en Afrique, ne le pratiquent plus. Juste parce qu'ils ne sont pas orientés ou juste qu'ils perdent immédiatement cette habitude-là se retrouvant sur le continent africain.
Est-ce que l'absence d'un bilan de santé contribuerait aussi au taux élevé de mortalité dans les pays africains?
Là, je le confirme. Je suis à 1000%, je dirais, sûr que le plus gros problème de l'Afrique, c'est la prévention. Le bilan de santé est à la base de la prévention. Parce que, je peux vous dire, l'Afrique subsaharienne a que 11% de la population mondiale, mais cette Afrique subsaharienne a 70% des maladies transmissibles et non transmissibles. Ça, c'est vraiment incroyable. La malaria, tout ce genre de maladies, nous pouvons les identifier avec uniquement un bilan de santé. Il faut les identifier à la base.
identifier ces maladies pour mieux les combattre?
Lorsque ces maladies seront identifiées, on pourra mieux les prévenir, mieux les soigner et réduire le taux d'infection. Notre approche, nous appliquons l'intelligence artificielle pour dégager certaines zones qui seront à risque. Nous pouvons planifier à l'avance des campagnes de vaccination. Lorsque vous ne savez pas, aucune campagne de vaccination ne peut vraiment prospérer. Dites-vous que si dans un village de 1000 personnes, aucune personne n'a déjà été vaccinée ou n'a déjà fait un bilan de santé, nous ne pouvons pas savoir qui souffre de quoi, qui a quoi. Et ça, c'est un très, très grand problème parce qu'on n'arrivera jamais à résoudre un problème sans savoir la cause, la racine en fait. Et le bilan de santé permet de décortiquer cette racine-là.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur, Marius Gris, mais il n'a pas dit d'où il écrit. Il se demande si l'ignorance ne contribue pas aussi à l'absence du bilan de santé dans les pays africains.
Je dirais que l'ignorance serait un gros mot. Mais je dirais que le manque d'informations et une politique sociale qui privilégie le bilan de santé serait en fait à la base de ce manque-là. Parce que certaines personnes le savent mais ne le font pas. Certaines personnes ne le savent pas et se disent que c'est déjà coûteux parce que l'Africain lambda cherche à avoir 2 dollars par jour, voire qu'il doit aller dépenser peut-être 10 dollars ou 20 dollars. Donc, se dire, mais si je suis bien important, pourquoi j'irai dépenser de l'argent inutile? Certains considèrent que c'est inutile juste parce que leur niveau social ne leur permet pas d'apprécier la valeur de ce système. Donc, on dira le manque d'information.
Tout en tenant compte de la pauvreté financière des populations africaines, comment est-ce qu'on peut les aider à être sensibilisés sur ce problème?
C'est une très, très belle question. Il faut une politique gouvernementale qui facilitera cela, qui est une prise en charge. Il faut aussi une réelle implication des organisations internationales. Et tout cela part de la base des données. Il faut arriver à les identifier. Tous ces Africains dans les zones les plus reculées, tous ces Africains qui sont en ville, il faut arriver à les identifier. L'identification est le plus gros problème africain. Lorsque vous aurez identifié toute cette population, vous pourrez personnellement contacter chaque personne avant des rendez-vous pour que cette dernière puisse faire le bilan de santé. Il faut une politique gouvernementale. La politique gouvernementale doit être au centre de tout. Il faut une collaboration du gouvernement, de la société privée et des institutions internationales qui faciliteront toute innovation dans le but de vulgariser le bilan de santé et la vaccination accurate, la vaccination précise. Je peux vous rassurer qu'avec un bilan de santé, toute campagne de vaccination pourra atteindre une précision jamais vue auparavant.
Est-ce que les politiques sanitaires, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux, le nombre des médecins dans les villes ou dans les villages en Afrique sont favorables à une prise de conscience des populations africaines quant au bilan de santé qu'elles doivent faire de façon régulière?
Je dirais non. Vu que les infrastructures en place peuvent faciliter le bilan de santé, mais l'utilisation de ces infrastructures déjà qui sont à la limite archaïque ne permet pas à l'individu lambda d'avoir accès et de recevoir un bilan de santé. Vu qu'il y a plusieurs problèmes, il y a le problème culturel, il y a le problème financier et il y a le manque d'informations. Et lorsque le plateau technique n'est pas assez percutant, assez performant, parce que disons que pour un bilan de santé, il faut mobiliser un infirmier, un docteur qui va le performer, qui prendra en moyenne 2 heures et plus. Combien de personnes seront à mesure de recevoir cela, sachant que nous sommes underserved. Nous avons moins de médecins disponibles pour la population. Dans le pays développé, nous avons pratiquement 4 médecins pour 1000 habitants. En Afrique, il se trouve que nous avons moins de 1,15 médecins pour 1000 habitants. Donc, vous voyez que nous n'avons que 360 jours. Lorsque nous partons dans un pays développé et nous disons, OK, avec 4 médecins pour 1000 habitants, nous nous retrouvons à 250 habitants par médecin. Donc, en une année civile de 360, le médecin peut être à mesure de consulter toute personne.
On sait que la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, les populations africaines qui n'ont pas les moyens de se faire un bilan de santé, qu'est-ce qu'elles peuvent quand même faire pour prévenir certaines maladies?
La base serait d'être active. Cette population, je pense qu'elle est déjà assez active. Donc, d'être active, prendre soin de son hygiène, de vérifier la provenance de différents aliments et d'avoir une hygiène publique un peu plus améliorée. Nous avons constaté qu'en Afrique, il y a un peu de laisser aller avec la propreté. Quelqu'un qui vit dans un quartier, il voit qu'il y a une eau stagnante, il ne sera pas à mesure de chercher à résoudre le problème de cette eau stagnante. Ils seront OK à constater cela chaque jour, à apporter des moustiques, à apporter des maladies.
Pour terminer notre interview, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aux populations africaines ou aux autorités africaines en rapport avec le bilan de santé?
Le bilan de santé est très, 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 très important et je conseillerais à tout Africain de s'y habituer, d'imprégner cette pratique-là dans son quotidien. Pour un départ, il faut déjà chercher à pratiquer cela une fois par an, même, je dirais, une fois chaque deux années pour être OK pour un pays africain, mais l'esprit du bilan de santé annuel. Il faut s'y imprégner et chercher les nouvelles technologies qui seront en place pour pouvoir faciliter cette activité.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Cheikh.
C'est avec un grand plaisir.
C'était notre discussion avec Sékou Cheikh Bomba, PDG de CBS System et doctorant en ingénierie management. Nous avons discuté sur l'importance du bilan de santé. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou. Cette semaine, dans carnet de santé, que sont les organismes génétiquement modifiés? Nous jetons un regard. Le docteur Rufus Ebeba du Nigeria nous en dit plus sur les défis et les opportunités des OGM. Et attention au sel, il pourrait réduire l'espérance de vie. Enfin, une chaîne de télé pour les sourds et les malentendants, c'est en Ouganda. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Avez-vous entendu parler des OGM? Les organismes génétiquement modifiés font référence à tout organisme animal, végétal, bactérie qui a été modifié par des techniques de génie génétique. Les aliments sont modifiés pour des raisons spécifiques telles que améliorer leur valeur nutritionnelle, leur croissance et les rendre résistants au climat. Selon les données de l'Institut national américain de la santé, NIH, environ 90% du soja, du coton et du maïs cultivés aux États-Unis sont des OGM. Les observateurs affirment que les aliments génétiquement modifiés pourraient être une solution pour lutter contre la faim en Afrique. Des aliments OGM sont produits sur le continent, y compris du maïs résistant à la sécheresse et du riz résistant aux herbicides dans des pays comme l'Éthiopie, le Soudan et le Kenya. Certaines critiques soutiennent que les aliments génétiquement modifiés sont toxiques et peuvent causer le cancer et d'autres problèmes de santé. Cependant, l'OMS affirme que ces aliments disponibles sur le marché international ont subi des tests de sécurité et aucun pays où ils ont été approuvés n'a reporté d'effets néfastes sur la santé en raison de leur consommation. Le docteur Rufus Ebeba est directeur général de l'Agence nigériane de gestion de la biosécurité. Il nous en dit plus sur les organismes génétiquement modifiés.
L'objectif de toute technologie est d'apporter des avantages. La technologie moderne est donc un outil permettant d'améliorer une situation qui ne peut pas l'être par des méthodes conventionnelles. Par exemple, la sélection du nébier génétiquement modifié, qui est le haricot, ou la sélection conventionnelle pour combattre un parasite particulier a été difficile, mais grâce au génie génétique, nous avons pu faire en sorte que les plantes résistent aux parasites. Les organismes génétiquement modifiés, dont l'innocuité est confirmée, présentent un certain nombre d'avantages. Par exemple, si vous pouvez modifier génétiquement une culture pour qu'elle soit résistante aux parasites, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'utiliser des pesticides. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser des produits chimiques et cela réduit vos coûts et vous augmentez votre rendement. Si vous modifiez génétiquement un produit ou si vous en augmentez la teneur en nutriments, cela procure une meilleure nutrition. Et si les agriculteurs obtiennent un rendement plus élevé, nous pouvons dépendre moins des importations. Donc, cela peut contribuer à la sécurité alimentaire. On doit soutenir cela. La question du bénéfice est complexe et dépend de ce que vous voulez vraiment faire avec le produit que vous pouvez modifier. Ainsi, la première préoccupation est qu'il ne soit pas différent de celui qui n'est pas génétiquement modifié. Il ne doit pas devenir envahissant et il ne va pas déplacer d'autres plantes. Et aussi, si vous modifiez génétiquement une plante pour qu'elle résiste à un insecte particulier, cela ne doit pas affecter d'autres insectes parce que la biodiversité ne doit pas être affectée. Il y a aussi la sécurité sanitaire. L'organisme modifié ne doit pas être toxique. Il ne doit pas provoquer d'allergie lorsque vous le consommez. Il ne doit pas être dangereux pour les animaux. Il s'agit de questions de préoccupation de santé. C'est une technologie qui évolue. Des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria, le Soudan et d'autres ont déjà mis en place des lois et les OGM sont déjà introduits chez eux. Les produits génétiquement modifiés ont été approuvés dans ces pays pour une utilisation commerciale. Ils concernent actuellement les cultures suivantes, le coton, le maïs et le niébé. Ils ne sont pas sur le marché actuellement parce que les détenteurs de permis essaient d'en produire suffisamment pour pouvoir les distribuer aux agriculteurs. Il en reste encore à travailler avec certains agriculteurs à des fins de démonstration pour convaincre les autres que ces produits peuvent être utiles. La question des nouvelles technologies suscite toujours des appréhensions et en Afrique, les pays sont parfois très lents à les adopter. Une chose que nous savons, c'est que certaines de ces campagnes contre les technologies sont des résultats de guerres commerciales. Des entreprises agrochimiques risquent de perdre définitivement la clientèle. Donc l'Afrique est une très bonne plateforme pour eux pour engager une guerre commerciale, mais le Nigeria ne fera pas partie de cela. Au Nigeria, vous savez, nous avons la connaissance, nous savons ce que nous voulons et nous allons nous assurer que cette technologie soit sûre avant de l'adopter. Aucun produit ou organisme génétiquement modifié qui n'est pas sûr ne sera autorisé au Nigeria.
Beaucoup de personnes pensent que les OGM sont mauvais pour la santé, mais certaines recherches montrent que ces aliments sont sans danger. Que pensez-vous des aliments génétiquement modifiés? Les consommeriez-vous ou non? Voici ce que certains d'entre vous ont répondu sur Facebook.
Jean-Claude Siméon Indikumana écrit « Les OGM pourraient causer le cancer et réduire l'immunité ». Manuela Nesqueza répond « Il ne s'agit pas de sauver le monde de la faim, il s'agit de faire des affaires et de faire du profit pour quelques-uns. Olivier Simpaye dit « Il est préférable de maintenir la culture du bio, car les OGM ne sont pas bons pour la santé. » Et enfin, Prosper Ndakaïsaba répond « Il n'y a pas d'alternative, il faut les manger plutôt que mourir de faim. »
Avez-vous tendance à ressaler vos plats? Eh bien, attention, une nouvelle étude révèle que cette habitude ferait perdre quelques années de vie. L'étude a été menée au Royaume-Uni sur plus de 500 000 personnes durant 9 ans. Les participants devaient indiquer, en remplissant un questionnaire, s'ils rajoutaient du sel à leur plat et à quelle fréquence. Selon l'étude publiée dans la revue European Heart Journal, les personnes qui ont l'habitude d'ajouter systématiquement du sel à leur alimentation ont un risque accru de 28% de mourir prématurément, indépendamment du régime alimentaire, du mode de vie, du niveau socio-économique et préexistant. La diminution d'espérance de vie est même estimée à 2,3 ans chez les hommes de plus de 50 ans et à 1,5 ans chez les femmes du même âge. Et pour cause, une consommation excessive de ce condiment crée un risque accru de troubles cardiovasculaires, notamment d'hypertension artérielle, d'accidents vasculaires cérébraux et d'infarctus du myocarde, selon les experts. Face à la crise alimentaire dans certains pays africains, due à la sécheresse et la pénurie de blé, certaines personnes innovent et trouvent des solutions alternatives face à l'insécurité alimentaire avec des produits locaux. Regardez.
Le besoin de manger ce qui pousse sur notre terre, la nécessité de sécuriser la nourriture sur notre terre, de ne pas dépendre de l'extérieur, mais plutôt de créer de l'intérieur et ensuite de partager avec le monde la bonté que nous avons.
Ils utilisent le manioc pour faire beaucoup de choses. Ils produisent de l'amidon à partir du manioc. Ils en font de la farine, ils en font de la pâte croustillante et tant d'autres dérivés.
On sait généralement qu'on a l'habitude d'utiliser du blé, ce qui n'est pas local, ni de chez nous. Surtout quand actuellement il y a la crise de l'Ukraine Et la farine de blé est rare sur le marché et ça coûte un peu cher. Mais nous avons la banane à notre disposition. Sur notre territoire, on peut en produire. Donc là, la farine de banane a sa valeur là. Maintenant, quand on prend la farine de banane, au lieu d'utiliser du blé pour faire nos gâteaux, nos crêpes et consorts, à la place de cette blé, on met en même temps la farine de banane et on ajoute les ingrédients qu'on ajoutait aux farines de blé à cette banane.
À base de la farine de la banane plantain, on fait du gâteau, du cake, bon, pas mal de choses, un peu beaucoup de choses avec en fait.
Les insectes offrent de nombreux avantages par rapport aux sources de protéines traditionnelles. Vous pouvez les cultiver avec moins d'eau, moins de nourriture et il y a moins d'impact sur l'environnement, surtout à Madagascar où on ne peut pas ajouter de vaches sur des paysages déjà dégradés comme les prairies. Et vous ne pouvez pas continuer à abattre des forêts alors qu'il n'en reste que 10%.
Nos recherches sur la façon de sécher et de préparer les insectes nous ont pris environ 3 ans. Pendant ce temps, nous avons pu nous former, acquérir l'expérience nécessaire et obtenir les autorisations nécessaires. Maintenant, nous accroissons et améliorons les produits et trouvons les moyens d'avoir les matériaux nécessaires pour augmenter notre production. Ce sera notre contribution à la lutte contre la malnutrition à Madagascar.
En Ouganda, plus d'un million de personnes sur une population d'environ 45 millions souffrent d'un handicap auditif. Elles ont un accès limité aux journaux télévisés car la langue des signes n'est pas toujours offerte par les chaînes du pays. Suzanne Mujawa Ananda a décidé de créer une chaîne de télévision en ligne pour ces personnes. Reportage de David Doyle.
Lorsque Suzanne Mujawa Ananda a appris qu'un sourd avait été blessé par balle pour avoir enfreint le couvre-feu pendant la pandémie, elle a décidé de créer une chaîne de télévision en ligne pour les sourds. L'homme dont l'histoire a poussé Ananda à agir a reçu dans la jambe une balle tirée par un membre de l'unité de défense locale d'un village du nord de l'Ouganda en avril 2020. Sa jambe a dû être amputée.
Il ignorait qu'il y avait un couvre-feu et se déplaçait pendant les heures de couvre-feu. Alors quand l'agent de sécurité contrôlait les gens en déplacement, il a demandé au sourd d'expliquer pourquoi il se trouvait dehors durant les heures de couvre-feu. Malheureusement, le sourd ne l'a pas entendu, il a continué à se déplacer, l'agent a ouvert le feu sur lui.
Dans une émission typique de Science TV Uganda, les nouvelles sont lues par deux présentateurs sourds et traduites simultanément par un interprète en langue des signes qui avance lentement pour suivre le rythme des présentateurs. L'écran affiche également des sous-titres.
Notre public cible est bien sûr les personnes malentendantes, les sourds, mais nous voulons aussi inclure tout le monde. Tout d'abord, les gens aspirent à apprendre la langue des signes et Sing TV, Uganda, est une opportunité de l'apprendre, car lorsque nous diffusons nos informations, nous nous assurons qu'elles sont accessibles à tous, qu'ils soient entendants ou non. Nous avons des interprètes en langue des signes qui doublent les présentateurs sourds lorsqu'ils présentent les informations, et nous nous assurons également que nos informations soient sous-titrées. Donc en gros, tout le monde peut y avoir accès.
À la fin de l'année dernière, Ananda s'est associé à un ami sourd, Simon Eroku, et après avoir obtenu une subvention, ils ont fondé Science TV, qui diffuse des bulletins d'information pour les sourds et par les sourds.
Ce que j'envisage, c'est que l'avenir de la communication doit être inclusif. Cela implique que nous devons nous assurer que tout le monde dans la communauté soit en mesure de comprendre le message que vous transmettez. Et nous croyons que si l'information est inclusive pour tout le monde, même nous, les sourds, serons en mesure d'en bénéficier.
Afin de votre santé, votre avenir, nous avons parlé de l'importance du bilan de santé avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et inventeur d'Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Carl Sterling qui étaient à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur